Ecclésiaste 5, si vous voulez vous tourner avec moi au chapitre 5, en fait, on va commencer avec le dernier verset du chapitre 4, le verset 17. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu. Et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne pas faire le vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyer que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. On est à peu près convaincu, assuré que c'est le roi Salomon qui est l'Ecclésiaste, l'auteur de ce texte. L'Ecclésiaste, encore une fois, ça vient du mot ecclesia en latin, qui veut dire l'assemblée, ceux qui sont appelés. Et donc l'Ecclésiaste, c'était le prédicateur, celui qui s'adressait à l'assemblée pour lui dire des paroles de sagesse inspirées de Dieu. Le roi Salomon, vous le savez sans doute tous, ça a été l'un des plus grands rois d'Israël. Il a été roi à l'époque de l'apogée d'Israël en étendue territoriale, en puissance économique, en réputation. Il a vécu une période où il y avait la paix avec les autres États, parce que son père David avait subjugué toutes les contrées avoisinantes et les avait réduites à l'état de vassal ou de vassaux. Salomon, c'est un roi qui avait bien commencé. Si on se tourne dans l'Ancien Testament, au premier livre des rois, chapitre 3, verset 9, on sait que Dieu lui avait demandé en songe, il voulait savoir ce qu'il désirait, ce que Salomon désirait. On peut lire à partir du verset 9. On va le lire à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit : demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit : tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. On remarque l'humilité, la déférence de ce roi Salomon, qui vient de prendre la place du grand roi David, qui avait marché avec le Seigneur, même si on sait qu'il avait péché, mais il était revenu, il était toujours très soucieux de plaire à Dieu. Et verset 8, il ajoute : ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué, ni compté à cause de son grand nombre. Et là, il demande, c'est sa prière, « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» Réaction de Dieu, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif aux droits, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu avant toi, et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. » Waouh, quelle promesse! Je te donnerai en outre tout ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Puis il ajoute une condition, et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Merveilleuse promesse de Dieu. Dieu donne à Salomon la plus grande sagesse qui ait jamais été donnée à l'homme. Encore une fois, on l'a fait remarquer, c'était une sagesse d'un domaine pratique. Ce n'était pas nécessairement une sagesse spirituelle profonde, mais il voulait bénir Salomon qui n'avait pas demandé ce que l'on demande généralement, le bien-être, la richesse, la victoire sur les ennemis. Et Dieu, typiquement, il donne toujours plus qu'on ce qu'on demande, si on le demande en cherchant à lui plaire. Il lui donne la richesse, il lui donne la réputation, il lui donne le succès sur la terre. Et voilà, donc, Salomon, on peut le dire avec cette prière qui montre le cœur qu'il avait envers Dieu, a très bien commencé. Et vous tous qui êtes là, si vous êtes ici, c'est qu'un jour vous avez commencé avec Dieu. Vous avez entendu parler de lui, vous avez été en contact avec sa parole, en contact avec des frères et sœurs, et vous vous êtes dit, moi aussi j'aimerais connaître ce Dieu, j'aimerais venir à lui, m'humilier devant lui, reconnaître mes péchés, recevoir son pardon, le suivre. Je veux faire de lui mon Seigneur, mon Maître, pour qu'il soit mon Sauveur. Et donc, si vous avez fait une telle démarche, c'est une démarche salutaire, parce qu'elle va vous amener le salut éternel. Et c'est une démarche qui plaît à Dieu. Donc vous aussi, vous avez bien commencé. Le problème avec le roi Salomon, c'est que progressivement, il s'est éloigné de Dieu. On peut lire ensemble le chapitre 11 on va commencer le chapitre 11 du premier livre des rois, c'est page 357 dans la Bible à la Colombe. Et voici ce que nous y trouvons. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elle détournerait certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et des chiffres étonnants, des chiffres difficiles à comprendre. Il est dit au verset 3 du chapitre 11 du premier livre des rois, il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Imaginez, messieurs, 700 femmes et 300 concubines. Comment garder vos priorités, votre relation avec Dieu? Il s'est éloigné et il est dit justement, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur, ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel, comme son père David. Vous vous souvenez, c'était la condition pour que Dieu le bénisse pour prolonger ses jours. Verset 14 du chapitre 3 que nous avons regardé dans 1 Roi. Si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Signe de bénédiction, d'approbation divine. Et au verset 7 de 1 Roi 11, on lit « Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. » C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le dieu Kémosh. C'est la Bible qui décrit un dieu vraiment pas admirable, qui était l'abomination de Moab et pour Moloch l'abomination des Ammonites, auxquels on faisait des sacrifices d'enfants. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Et Dieu, l'Éternel, lui promet de déchirer en deux son royaume, ce que le reste de l'Ancien Testament nous décrit avec beaucoup de détails et de chagrin, de tristesse. Et donc, ce roi Salomon, qui avait si bien commencé, il s'était éloigné de Dieu. On pense que le livre de l'Ecclésiaste a été écrit justement à la fin de sa vie, lorsqu'il réfléchissait sur toute sa vie. Et on pense, et je crois que c'est sage, raisonnable de le croire, que ce livre de l'Ecclésiaste montre que Salomon s'est repenti. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de lire ce livre sur l'Ecclésiaste et le roi Salomon, des centaines d'années avant Jésus-Christ, à quoi bon passer du temps là-dessus? En fait, c'est que je vous ai dit que vous aviez bien commencé, si vous êtes venu dans la repentance et dans l'adoration à Jésus-Christ. Mais comme Salomon, nous sommes tous en danger de nous éloigner de Dieu. Nous sommes tous en danger de bien commencer et de mal terminer. Et ça, c'est une chose terrible et pourtant une chose que l'on voit trop souvent. Que ce soit des enfants qui sont dans les voies de Dieu, qui ont un cœur pour Dieu et qui à l'adolescence s'éloignent de lui, ou des adultes qui désirent le servir, l'honorer par leur vie, mais qui, sous la pression des circonstances, de la vieille nature, de notre vieille nature pécheresse, s'éloignent progressivement, vont à la dérive et se retrouvent bien loin de Dieu avec l'Éternel qui est irrité contre eux. Voilà donc ce texte, ce passage, il doit nous interpeller. Il doit nous interpeller, il doit nous mettre en garde. Et l'Ecclésiaste, le roi Salomon, va nous montrer trois erreurs communes qui font que, après avoir bien commencé, on peut s'éloigner de Dieu. Je vais vous poser une question peut-être surprenante, mais pourquoi êtes-vous ici ce matin? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ben, vous dites, je viens à l'église, il faut aller à l'église, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche matin. C'est pas une mauvaise chose, mais regardez comment Salomon commence ce passage en disant « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. » Prends garde à ton pied. Fais attention où tu vas. Ne trébuche pas. Autrement dit, quand tu vas à la maison de Dieu, quand tu viens à l'église, pourquoi est-ce que tu viens? Alors, peut-être certains me diront, je suis ici ce matin parce que on m'a invité. Je n'avais rien de mieux à faire, il faisait trop chaud pour aller à la plage. Je me suis dit, je viens ici, ça sera peut-être intéressant. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'autant plus qu'on sait qu'ici on n'a pas l'air conditionné, donc c'est pas vraiment pour le confort de la fraîcheur que vous êtes venu. Et c'est une première raison. C'est souvent une raison qui nous permet d'aller plus loin dans la connaissance, dans la rencontre avec la parole de Dieu, dans la rencontre avec Dieu, dans la rencontre avec Jésus-Christ. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi vous qui êtes là et qui avez commencé à faire cela depuis des mois, voire des années, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Peut-être vous allez me dire, parce que je passe par des moments difficiles. J'ai des ennuis, donc je me suis dit, je vais essayer d'obtenir la faveur divine. Je sais que Dieu, s'il le voulait, pourrait régler mes problèmes de santé, mes problèmes d'emploi, mes problèmes de ressources ou de manque de ressources. Et donc, comme je passe par des moments difficiles, je viens à l'église. Et c'est vrai qu'on constate que chaque fois qu'il y a des événements dangereux ou des événements bouleversants, notamment des déclarations de guerre, des résultats de référendums qui mettent en difficulté la situation économique présente, on pense au référendum ce soir en Grèce, parce que ça va être le Grexit, l'exit de la Grèce de l'euro, avec les conséquences inconnues que ça pourrait avoir pour nous tous. Et donc, quand il y a eu les guerres en Irak, les églises aux États-Unis étaient débordantes de monde. Les gens, lorsqu'ils ont peur, pensent à se tourner vers Dieu. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici? Parce que vous passez par des moments difficiles? Ou alors parce que vous avez décidé, vous êtes engagé à venir et vous êtes fidèle dans vos engagements? Donc la raison, c'est plus par rapport à vous-même que par rapport à Dieu. Certains, c'est aussi parce qu'ils ont été élevés dans un milieu, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, ils sont religieux, ils pensent que ça ne fait pas de mal, que c'est une bonne chose que d'avoir des valeurs morales, et donc ils viennent à l'église un peu par habitude et par comme une protection contre le mal de la société. Et puis il y en a d'autres, ils viennent parce qu'ils sont impliqués à l'église. Ce matin, j'ai mal dormi avec la chaleur et il m'a fallu quelques moments pour vraiment me réveiller. Et Nancy, ma femme, me disait « Pierre, réveille-toi ». Et j'ai dit mais pourquoi ? Elle m'a dit mais on va à l'église. Et j'ai dit mais pourquoi est-ce que je dois aller à l'église ? Elle m'a répondu même parce que c'est toi le pasteur. Et bien sûr, j'ajoute ceci, je vais au-delà de ce qui s'est dit, mais c'est un peu par humour quoi, de dire qu'en fait moi, j'ai pas vraiment le choix de venir ou pas à l'église. C'est moi le pasteur, c'est moi qui vais prêcher. C'est en quelque sorte mon métier. Donc, je viens à l'église parce que c'est mon travail. Alors, peut-être pas le pasteur, c'est pas votre travail, mais vous êtes impliqué dans un ministère, vous faites de la louange, donc vous êtes là parce que vous allez faire la louange, vous êtes engagé, et je vous en félicite, à servir les enfants en vous occupant de l'école du dimanche. Et tout ça, c'est parce que, en fait, vous êtes impliqué à l'église, et certaines églises sont contentes lorsque beaucoup de gens sont impliqués, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un noyau qui sera toujours présent. Et on sait que le monde attire le monde, donc s'il y a 20 personnes qui sont impliquées, ça va attirer du monde et l'Église peut en bénéficier en étant plus nombreuse, en ayant plus de ressources en personne, en bonne volonté. Et tout ça, c'est un peu ce que l'Ecclésiaste appelle le sacrifice des insensés. J'aime bien cette expression, le sacrifice des insensés. Ça ferait, je trouve, un beau titre de roman, de film, le sacrifice des insensés. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice des insensés ? À l'origine, les sacrifices étaient des sacrifices d'animaux. On offrait des sacrifices complets qu'on appelait des holocaustes, tout partait en fumée, ou bien ce qu'on appelait des sacrifices, il y en avait plusieurs types, où l'animal n'était pas complètement détruit, une partie pouvait servir à la nourriture des prêtres. Mais l'idée, c'était d'offrir des sacrifices d'animaux, verser du sang, pour obtenir un pardon temporaire. Mais le problème qui pouvait faire que ce sacrifice était un sacrifice d'insensé, c'était d'offrir ce sacrifice sans avoir un cœur tourné vers Dieu, un cœur prêt à obéir. Sacrifier sans avoir un cœur obéissant. Et on a le fameux exemple dans 1 Samuel 15. Regardez ce passage ensemble, je vous invite à vous y tourner. 1 Samuel 15, dans la Bible à la colombe, on va se tourner à la page 293. Il y a toujours de l'humour dans la Bible, même pour des choses très graves. Et on va voir ça. On va commencer à partir du verset 10, juste un peu d'arrière-plan. Le peuple d'Israël était en guerre contre Amalek, le royaume des Amalécites, qui s'opposait à ce qu'Israël entre en terre promise, et par l'intermédiaire de Samuel, Dieu, l'Éternel avait parlé au roi Saül, et verset 2 du chapitre 15, on va revenir à ça. Ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et voué à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saül battit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm. Il avait 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et donc l'Éternel donne la victoire au roi Saül contre Amalek. Verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voit à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Vouer à l'interdit, ça voulait dire que c'était hors d'usage, c'était souvent détruire par la mort. Alors, juste une parenthèse, on trouve que le Dieu de l'Ancien Testament est bien sanguinaire lorsqu'il ordonne la mise à l'interdit de tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les agneaux, chameaux et ânes. En fait, il faut réaliser que Dieu connaît l'histoire, le présent, le futur, le passé, et que s'il décide de passer à l'interdit, c'est qu'il sait que garder en vie ces personnes, même ses enfants, sera une source de chute bien plus grave et bien plus importante pour toute l'humanité. Si les Amalécites avaient réussi à empêcher la venue de Messie, c'est toute l'humanité qui était vouée à la destruction pour l'éternité. Mais c'est une parenthèse, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de voir que Saül a reçu un ordre de ne pas garder notamment tout le bétail. Et qu'est-ce qu'il fait? Il, avec le peuple, ils vont garder les bons morceaux, les bons animaux. Et ils vont offrir en sacrifice, ils vouent à l'interdit, ce qui est méprisable et chétif. Du coup, verset 10, la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots: je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécutera pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta: Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: « Sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. J'ai tout fait comme on m'a dit, comme Dieu m'a dit. » Sauf qu'on l'avait déjà dit, il s'était gardé les bons animaux, il n'avait pas passé par l'épée le roi Agag. Et le prophète Samuel, et c'est là qu'on voit l'humour de Dieu par son Esprit Saint, Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétail que j'entends? Il est pris la main dans le sac. Il prétend avoir exécuté la volonté de Dieu qui aurait consisté à supprimer toutes les richesses des Amalécites, du peuple d'Amalek, y compris le roi Agag, mais il ne l'a pas fait, et la preuve, c'est tout le bruit qu'on entend derrière lui, en arrière-fond sonore. Et là, typiquement, Saül va trouver des excuses. Saül répondit: de qui on parle? On parlait de lui. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, c'est-à-dire tout ce qui était moche et chétif, méprisable, nous l'avons voué à l'interdit. Et le roi plutôt Samuel va dire au roi Saül: assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et il lui annonce qu'en fait, il va le remplacer. L'Éternel, verset 18, l'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant: va et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et puis, encore une fois, il va continuer en se défendant en disant que c'était pas son idée, c'était le peuple qui avait pris le butin sur le petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit. Une belle expression, dire que c'était des choses qu'on gardait afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. C'est plus son Dieu. Saül, il parle de l'Éternel comme le Dieu de Samuel. Il sent qu'il s'est établi une distance de par son de désobéissance. Et puis, ces fameux versets, 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La punition de l'Éternel, parce que Samuel voulait offrir le sacrifice des insensés. Il voulait offrir un sacrifice sans honorer Dieu par son obéissance. Le sacrifice des insensés, dans notre situation présente, c'est d'écouter la vérité de Dieu sans changer, sans le prendre au sérieux. Et venir à l'Église sans désir d'être transformé par Dieu, sans désir de le rencontrer vraiment, dans l'intimité de nos cœurs. Aller à l'Église, ça ne doit jamais être une obligation. On va à l'Église pour avoir la communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec nos frères et sœurs. Parce qu'on veut écouter, on veut connaître, on veut écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique, pour y obéir. Et ça, c'est une erreur que l'on fait. On vient à la maison de Dieu, on vient à l'Église, on vient à des réunions, sans motivation vraiment spirituelle, sans motivation profonde d'amour, de louange envers Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons, et la Bible nous parle de ces différents sacrifices, normalement on n'offre plus des sacrifices d'animaux, parce que la lettre aux Hébreux nous explique que ces sacrifices étaient une préfiguration du sacrifice ultime qui était offert une fois pour toutes en la personne de Jésus-Christ sur la croix. Mais la Bible parle de plusieurs types de sacrifices que nous pouvons faire. Si nous nous tournons dans le livre de Romains, au chapitre 12, c'est page 181 dans la Bible à la colombe, nous pouvons offrir nos corps en sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice, il doit être saint, sans arrière-pensée, sans péché. Il doit plaire à Dieu, il doit être agréable à Dieu. Et c'est le sacrifice, le culte le plus raisonnable, le plus intelligent que nous puissions faire. Nos corps doivent être au service de Dieu pour faire de belles choses, pour faire de bonnes choses. Nos bouches doivent annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle, pardon. Nos pieds peuvent aller là où il y a besoin d'aide pratique, où il y a besoin d'annoncer cette parole. Nos mains peuvent être là pour réconforter, pour penser, pour bâtir. Nos corps doivent être offerts en sacrifice. Dans Philippiens 2:17, Paul parle aussi de sacrifice. Il dit, page 225, Bible à la Colombe, « Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » La libation, c'était un sacrifice sous forme de liquide, on versait du vin, on versait de l'huile, des choses qui coûtaient, mais qu'on offrait à Dieu en sacrifice. Et là, il parle de servir ses frères et sœurs. Notre service est un sacrifice. Et on peut... L'idée de sacrifice en français garde toujours l'idée de quelque chose qui fait mal. Si c'est facile, c'est pas un sacrifice. Vous vous souvenez de la petite vieille qui donnait... Le prochain point, c'est que nos dons peuvent être un sacrifice. Si nos dons financiers, par exemple, nos dons de temps, si ça ne coûte pas, c'est pas vraiment un sacrifice. Philippiens 4, 18, Paul nous dit, ou plutôt il disait aux Philippiens, en les remerciant de leur don financier qu'il avait reçu par Épaphrodite, verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Lorsque vous donnez de vos finances, de votre temps aussi, à l'Église, pour servir Dieu, c'est... L'Église est reconnaissante parce que nous pouvons faire face à des dépenses d'entretien, de fonctionnement. Mais Dieu lui-même les reçoit comme un parfum de bonne odeur. C'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il agrée ce genre de choses. C'est quelque chose qui vous coûte, mais que vous faites parce que vous l'aimez. Et ça, c'est pas le sacrifice des insensés. On pourrait dire que c'est le sacrifice des sensés. Dans notre louange aussi peut être un sacrifice. On a parlé de sacrifier nos corps, notre service, nos dons, notre louange, entre autres. Hébreux 13, 15, page 257 dans le Nouveau Testament de la Bible à la Colombe. Par lui, parlant de Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Louer Dieu, quelque part, ça, c'est un sacrifice dans le sens où on met à part les autres choses. On néglige d'autres choses qui pourraient nous tenter parce que on a à cœur de le louer, de le glorifier. Dans le psaume 69, verset 31, il est dit « Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. » Autrement dit, Dieu reçoit la louange de préférence à des sacrifices d'animaux à l'époque. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est le cœur sincère. Ces passages, ce passage versé dans l'Ecclésiaste parle en fait de la louange. Nous devons avoir une louange sincère, nous ne devons pas faire le sacrifice des insensés. Une erreur commune qui peut nous éloigner de Dieu, même quand on a bien commencé, après ce sacrifice des insensés, c'est le fait de venir à Dieu en lui demandant des choses matérielles. C'est de penser que Dieu ne sait pas ce dont nous avons besoin. La Bible, le Nouveau Testament particulièrement, nous dit que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses matérielles il sait que nous en avons besoin et il va prendre soin de nous les donner, de nous les permettre pour notre utilisation nécessaire, les vêtements, le toit, les ressources financières raisonnables. Dieu sait que nous en avons besoin. Mais souvent, nous pouvons insister, répéter. Et j'aime bien cette mise en garde, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Rappelons-nous à qui nous nous adressons, combien Dieu est puissant, combien il est au-dessus de nos voix, combien il est au-dessus de nos pensées, combien il nous aime et combien il veut pourvoir à nos besoins physiques, matériels. On peut tout faire par Jésus-Christ qui nous fortifie. Mais on a tendance à venir et à lui demander des choses matérielles et à répéter. On a des soucis et on est des insensés, on fait des foules de paroles, comme il est dit au verset 2. J'aimerais faire un petit commentaire sur ce texte qui nous dit « Dieu est au ciel », verset 1 du chapitre 5. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ayez la bonne perspective. N'oubliez pas qui vous êtes et qui est Dieu. Trop souvent, on le rabaisse en lui demandant, en lui répétant les choses, en oubliant qu'il sait avant même qu'on ouvre la bouche, il sait ce dont nous avons besoin. Et j'aime beaucoup c'est un texte d'ailleurs qui a été repris pour un chant récent, Matt Redman. C'est quelqu'un qui avait remarqué qu'en fait la louange, l'adoration de Dieu, les gens venaient à l'église plus pour écouter les grands chanteurs chrétiens. Il y avait une église assez connue où il y avait des très grands noms, des chanteurs chrétiens qui sont connus dans le monde chrétien de la musique, qui ont des chants qui sont repris dans le monde entier. Et il avait justement repris, il avait cessé d'aller à cette église parce qu'en fait les gens venaient pour écouter Matt Redman ou bien pour écouter un autre grand chanteur. Et c'était un peu comme si il demandait à l'avance qui sera là la semaine prochaine. Et si c'était pas leur chanteur préféré, alors à ce moment-là, il n'allait pas venir. Et ce chanteur, je crois que c'est Matt Redman, a écrit cette chanson. La louange, c'est bien plus que de chanter. Le rideau terminé, je crois que c'est la traduction en français. Le chant terminé, le rideau retombe. Et qu'est-ce qui reste? Et que tes paroles soient donc peu nombreuses. peu nombreuses. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui, lorsque vous êtes dans un groupe de prière, une fois qu'elles ont commencé à prier, elles couvrent tous les sujets, elles répètent des sujets pour lesquels on a déjà prié, mais une fois qu'elles se sont emparées de la parole, quelque part, vous ne pouvez plus placer une parole, vous ne pouvez plus placer une prière. Là, il faut être sensible, et souvent on est sensible à ce problème lorsque les gens nous empêchent de prier. Et souvent, ça peut être moi-même qui ai cette tendance à aligner des sujets de prière, à garder le temps de prière, de parole dans la prière commune ou en commun, de le monopoliser. Et ça, c'est quelque chose de très insensible. Et je crois qu'on perd l'écoute de Dieu. Il y a un auteur chrétien du début du XXe siècle, Edwin Orr, qui disait... Et ça, c'est quelque chose que je vais utiliser maintenant quand on prie en groupe, pour rappeler de prier courtement, de façon intelligible, pour que tout le monde puisse dire Amen. Et si on a dit Amen à un sujet où on a déjà tous prié, par en disant Amen, point n'est besoin de ramener le sujet sur la table. Alors, c'est pas un péché. C'est pas si vous êtes vraiment conduit à le faire, mais évitez de reprendre la liste, parce que les gens perdent le désir de dire Amen. Et cet auteur dont je ai cité les remarques disait que quand quelqu'un prie dans une réunion, les trois premières minutes, les gens prient avec lui en disant Amen et en pensant au sujet pour lequel la personne prie. Puis il ajoute, s'il ne s'arrête pas au bout de ces trois minutes, mais continue encore trois minutes, alors à ce moment-là, les gens commencent à prier pour lui, en disant, Seigneur, montre-lui qu'on a déjà prié pour ça, donne-lui de passer la parole ou la prière à quelqu'un d'autre, donne-lui ta paix, Seigneur, montre-lui que tu as déjà entendu, que tu vas agir, qui n'a pas besoin de répéter de vaines paroles pour que tu exauces nos prières. Et puis, cet auteur continue, en fait, si la personne persiste et va au-delà des 6 minutes, 3 premières minutes où les gens priaient avec lui, les 3 minutes suivantes où les gens ont prié pour lui, s'il continue encore 3 minutes ou encore pire au-delà, alors à ce moment-là, les gens vont prier contre lui. Seigneur, fais qu'il se taise. Seigneur, qu'ils comprennent que nous voulons nous aussi prier. On prie contre lui. Alors c'est humoristique, c'est drôle, mais encore une fois, que nos paroles soient peu nombreuses. Que nous passions plus de temps à penser à ce que nous voulons communiquer à Dieu qu'à savoir comment expliquer. Prendre la parole lorsque la personne qui prie longuement va reprendre sa respiration, juste sauter au bon moment pour pouvoir prier. Il y a même des pasteurs qui disent, quand les gens prient trop longtemps, pendant que notre frère termine sa prière, nous allons nous passer au sujet suivant. Mais tout ça, c'est des façons humoristiques de parler de quelque chose de très sérieux. Très sérieux, Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Et si une autre façon qui nous éloigne de Dieu, sacrifice des insensés, faire ces sacrifices qu'on peut faire aujourd'hui, venir au temple, à l'église, mais ne pas vouloir obéir à Dieu en fin de compte, répéter des demandes matérielles à Dieu, alors qu'il nous a promis dans le sermon sur la montagne que si nous le cherchons d'abord, si nous cherchons son royaume, sa justice, toutes les choses nous seraient données en plus. On peut aussi voler Dieu. Voler Dieu, c'est ne pas obéir à faire des vœux. Verset 3, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'y a point de faveur pour les insensés, encore ces fameux insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Toutes ces choses, c'est relatif au vœu. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin, nous est-il dit dans le sermon sur la montagne. Alors vous dites, mais moi je fais pas de vœux, je sais que je ne jure pas sur la tête de mes enfants. En fait, si vous êtes ici, quelque part, c'est parce que vous avez fait un vœu. Lorsque vous êtes venu à Christ, lorsque vous avez décidé de le suivre, de le prendre comme maître, comme Seigneur, pour qu'il soit votre sauveur, c'est un vœu parce que quand vous l'avez reçu comme votre, avant de le recevoir comme votre sauveur, il faut qu'il soit votre maître. Donc vous avez promis de lui obéir, de changer de vie. Mais si on continue dans le péché, si vous continuez dans le péché, vous êtes comme ces gens qui ne respectent pas leurs vœux et qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc ces erreurs de venir à l'église pour de mauvaises raisons, de faire ces sacrifices sans un cœur sincère, tout ça c'est ce sacrifice des insensés, c'est une première raison. Insister, faire des répétitions pour des choses matérielles, c'est aussi une façon de s'éloigner de Dieu. Et pire encore, voler Dieu en ne respectant pas nos vœux, tout ça ce sont des choses terribles. On veut terminer ce chapitre 5 et en fait ce qui est intéressant c'est que le reste du chapitre va parler des richesses, de la richesse. Et c'est un peu curieux de passer de la louange où on vient à Dieu, on exprime, on lui parle, et puis parler d'argent en quelque sorte. Et en fait, c'est malheureusement une réalité dans nos vies, c'est que nous pensons bien souvent plus à l'argent, au problème d'argent, qu'à Dieu, que nous passons plus de temps à nous préoccuper de savoir comment nous allons faire face à des factures imprévues, comment nous allons retrouver un travail, comment nous allons chercher du travail, comment nous pouvons faire des économies. Et c'est pas mauvais en soi, mais est-ce que ça prend pas la priorité dans nos esprits? Et souvent la façon dont nous gérons nos richesses est une réflexion du caractère de notre relation avec Dieu. Si nous avons une relation avec Dieu pleine d'amour et de déférence et de désir de plaire, nous allons être généreux, nous allons donner aux pauvres. Et lisons ensemble les versets 7 à 19. Si tu vois dans une province qu'on opprime le pauvre et qu'on viole le droit et la justice, ne t'étonne pas de la chose, car un grand protège un autre grand, et il est en accord de plus grand au-dessus d'eux. Les produits de la terre sont pour tous, même un roi est tributaire de la campagne. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime le faste n'a pas de revenus. C'est encore là une vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui en mangent se multiplient aussi. Quel bénéfice en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il est un malheur funeste que j'ai vu sous le soleil, la richesse que son propriétaire garde pour son malheur. Cette richesse se perd par une mauvaise affaire. Le fils qu'il avait engendré n'a plus rien en main. Comme il est sorti du sein maternel et s'en retourne nu comme il était venu, il n'emportera de sa peine rien qu'il puisse emmener dans sa main. C'est encore là un malheur funeste. Il s'en ira exactement comme il était venu. Et que lui restera-t-il après avoir peiné pour du vent? Il consume ainsi toutes ses journées dans les ténèbres, beaucoup de tracas, de souffrances et d'irritations. Voici ce que j'ai vu. C'est déjà bien beau pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur au milieu de toute la peine qui se donne sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie, de vie que Dieu lui a donnée. C'est là sa part. D'ailleurs, pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources et qu'il laisse maître de s'en nourrir, d'en prendre part et de se réjouir au milieu de sa peine, C'est là un don de Dieu. En effet, quand il n'aura plus grand-chose, il se souviendra des jours de sa vie où Dieu lui répondait par la joie du cœur. Rapidement, car le temps vient nous manquer. Salomon, qui savait de quoi il parlait parce qu'il avait été l'homme le plus riche probablement de l'histoire, il veut détruire des mythes sur les richesses. Le premier mythe, c'est que les richesses satisfont. Il nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime le faste n'a pas de revenus, c'est le temps qu'on l'a une vanité. » Le deuxième mythe, c'est au verset 10 « Quand les biens se multiplient, ceux qui en mangent se multiplient aussi. Quels bénéfices en ont les propriétaires, sinon qu'ils les voient de leurs yeux ?» Le mythe numéro 2, c'est que la richesse résout nos problèmes. Souvent, les richesses amènent des problèmes. Imaginez que vous gagnez au loto, maintenant vous allez devoir savoir comment vous allez placer cet argent, comment vous allez trouver des conseillers qui soient honnêtes, qui ne vous prennent pas tout l'argent. Souvent les gens qui gagnent au loto se retrouvent quelques années avec une vie bouleversée, des divorces, l'argent n'amène pas la satisfaction, ne résout pas les problèmes, c'est le mythe numéro 2. Mythe numéro 3, c'est que la richesse amène la paix. Verset 11, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. C'était la fable de Jean de La Fontaine sur le savetier et le financier. Le financier qui pensait à son argent tout au long de sa vie, le jour et nuit, ne pouvait pas dormir, alors que le savetier, lui, faisait son travail et après il avait terminé, il se reposait. Il était, comme on dit ici dans le midi, tranquille, il dormait. La richesse n'amène pas la paix. Et puis, un quatrième mythe qui est détruit, c'est que la richesse amène la sécurité. C'est les versets 12 à 15 où il parle qu'en fait, la richesse qu'on a accumulée, on ne sait pas à qui elle va être transmise. Si nos enfants vont savoir en prendre soin, si peut-être les impôts vont en prendre la plus grande part dans la succession, on se sera donné beaucoup de peine, beaucoup de tracas, mais on n'aura aucune assurance que cet argent va aller là où on voudrait qu'il aille. Et c'est ce verset 15, c'est encore là un malheur funeste, une expression très forte qu'il répète plusieurs fois. Il s'en ira comme il était venu, que lui reste-t-il après avoir payé pour du vent ? Il consume ainsi toutes ses journées dans les ténèbres, beaucoup de tracas, de souffrances et d'irritations. Toutes ces choses font que la mort nous laisse nus comme on arrive. Lorsque Daphné, petite pensée pour elle, est née, elle n'avait pas en bandoulière un petit bandana avec un portefeuille dedans, elle n'avait rien du tout. Et quand on meurt, on repart nu. Il y a un insensé américain qui s'est fait enterrer dans sa Cadillac rose, mais il est parti nu dans sa Cadillac. Même s'il est habillé, les vers se chargeront de le mettre à nu jusqu'aux os. Tout ça, c'est bien déprimant. Et c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué, c'est qu'en fait, dans ce livre de l'Ecclésiaste, les premiers chapitres sont destinés à nous montrer que la vie sous le soleil ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors je précise, la vie sous le soleil, ça veut dire la vie sans égard pour Dieu. Ça ne veut pas nécessairement dire sans croire qu'il y a un Dieu, mais c'est vivre notre vie comme si Dieu n'existait pas. Et même dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui vivent comme si Dieu n'existait pas vraiment. Et c'est vivre sous le soleil, en bas, au ras des pâquerettes. Ça ne veut pas dire vivre à Nice quand il fait chaud et qu'on peut aller bronzer. C'est vraiment être dans la carnalité. C'est vivre, et cette vie-là, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est le thème du livre de l'Ecclésiaste. Mais à la fin, les chapitres, il va nous montrer que si Dieu fait partie de notre vie, s'il entre dans l'équation, si nous vivons pour lui, alors à ce moment-là, la vie prend la plus belle des significations. La vie est merveilleuse, la vie mérite d'être vécue, d'être encouragée, d'être protégée, d'être, je dirais, nourrie, d'être entretenue, d'être respectée. C'est quelque chose de merveilleux. Et là, on l'a vu déjà aussi, quand il vient déprimé, il repense à Dieu. Il ne peut pas s'empêcher parce qu'il a connu Dieu, il s'est éloigné de lui, il est revenu à lui en disant que tout le reste, toute la vie qu'il a pu mener dans la richesse, les plaisirs, les grands travaux, les grands ouvrages, la réputation, l'auteur de 3000 proverbes, toutes ces choses-là, ça ne vaut rien si Dieu n'est pas là. Et là, il en revient à parler des plaisirs simples et dire que, voilà ce que j'ai vu, verset 17, c'est déjà bien beau pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. C'est bien de se contenter des plaisirs simples, de manger, de boire, de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'on voit par ailleurs. C'est la part que Dieu nous donne. C'est quelque chose qui est loin d'être méprisable. Hier soir, nous avons été pique-niquer à la plage et il y avait beaucoup de... C'était déjà tard. Il y avait des familles, nombreuses. Il y avait beaucoup de familles, de gens avec des amis qui pique-niquaient simplement sur les galets. Il y avait des enfants qui jouaient, qui chantaient, qui criaient, qui avaient de la joie. C'était très simple. Il n'y avait pas de grosses dépenses d'argent. Et pourtant, j'étais touché. J'ai dit, ça, ce sont des plaisirs simples qui font honneur à Dieu. Des choses qui nous donnent d'apprécier, de vivre. Et il continue, verset 18, d'ailleurs, pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources et qu'il laisse maître de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de sa peine, c'est un don de Dieu. Profiter de la vie sur terre de façon simple, profiter de notre travail, d'en avoir une satisfaction, de voir qu'elle nous permet d'acquérir des plaisirs simples. Et puis, quand il n'y aura plus grand-chose, il se souviendra des jours de sa vie où Dieu lui répondait par la joie du cœur, par le contentement. La vie sous le soleil, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais dès qu'on pense à Dieu, dès qu'on se tourne vers lui, qu'on ne vit pas comme un insensé, qu'on n'offre pas des sacrifices d'insensés, qu'on ne fait pas des vaines répétitions, qu'on ne compte pas sur la richesse pour nous amener la satisfaction, l'absence de problèmes, la paix, la sécurité, et qu'on oublie qu'on va repartir nu, mais que ce qui compte, c'est ce qu'on aura pu envoyer à l'avance dans les cieux. On peut investir à l'avance, on peut vivre pour Dieu. Et ce passage, tout ce livre de l'Ecclésiaste, il semble pessimiste, mais encore une fois, voyons pourquoi il est pessimiste, c'est lorsque Dieu n'est plus dans l'équation. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Saint-Esprit qui l'a inspiré, mon roi Salomon, merci pour l'homme que tu avais utilisé pour nous parler aujourd'hui, Seigneur. Merci de ce que nous avons le sentiment qu'après avoir bien commencé, après avoir mal terminé, il s'est repenti et que ce livre le montre. Il nous montre que sans toi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais qu'avec toi, tout est possible et tout est merveilleux, Seigneur. Et nous voulons te remercier, te demander de nous aider à comprendre ces réalités, à ne pas nous laisser prendre par des erreurs qui nous éloigneraient de toi, Seigneur. Et nous, à finir fort, Seigneur. J'ai... sentiment que je dois ajouter ceci. J'ai un ami pasteur qui, chaque samedi, m'envoie un message d'encouragement à prêcher la parole par la puissance de l'Esprit-Saint. Et nous savons qu'il y a eu un grand bouleversement aux États-Unis qui a affecté nos frères et sœurs chrétiens, les évangéliques, avec la Cour suprême qui a autorisé, légalisé le mariage homosexuel dans tous les États, même ceux qui l'avaient refusé avec leur propre Cour suprême. Et beaucoup de nos frères et sœurs sont en armes, sont désespérés, se disent « mais où allons-nous ?» Et cet ami pasteur, Tom Blumberg, me disait, dans son petit mot, « plus que le passage par la Cour suprême de cette nouvelle loi, c'est l'état de l'Église qui m'inquiète. » Parce qu'il a le sentiment que l'Église s'éloigne de Dieu, et gardons-nous de nous éloigner nous-mêmes de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen.